RMC Grand Plateau, Johan Bredov.
Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Grand Plateau avec le cyclo-cross à l'honneur. Ce week-end ont eu lieu les championnats du monde à Liévin en France et c'était un véritable événement 21 ans après la dernière édition organisée sur notre sol. À l'époque, c'était un pont château, ça nous rajeunit pas. Cette année, pas de surprise, Mathieu Van Der Poel a remporté la course homme haut la main sans laisser une once d'espoir à la concurrence. Wout Van Aert 2e et Thibonès 3e n'ont jamais pu rivaliser un 7e titre de champion du monde pour Mathieu Van Der Poel, qui égale le record d'Eric de Vlaeminck devant un public venu en masse. Allez, on se replonge dans cette course et dans ce qu'il s'est passé ce week-end à Liévin.
Mathieu Van Der Poel, lui, rentre encore un peu plus dans la légende à l'instant en devenant pour la 7e fois champion du monde de cyclocross. Il rejoint Eric de Vlaeminck tout en haut du palmarès. Il n'y a pas mieux aujourd'hui qu'Eric de Vlaeminck et que Mathieu Van Der Poel, la légende qui continue à s'écrire. Et l'an prochain, Mathieu Van Der Poel qui tentera d'être seul tout en haut du palmarès de cette discipline quand même. Même si la course était un petit peu ennuyeuse aujourd'hui, c'est une discipline qui reste fun, c'est une discipline qui est très agréable à regarder.
Vous l'avez entendu, Arnaud Souk y était. Salut Arnaud.
Salut les amis, salut à toutes et à tous.
Ouais, course un petit peu ennuyeuse, on va revenir sur le scénario, mais c'était un week-end de fête.
On aura l'occasion d'en reparler et c'est un super événement en termes de popularité. C'est pas pour rien d'ailleurs que ça marche super bien en Belgique. Alors c'est évidemment beaucoup moins culturel chez nous en France, mais c'est vrai qu'en Belgique, tous les week-ends, ça réunit des dizaines de milliers de spectateurs le long des parcours. Et voilà, c'est vrai que la course était quand même un petit peu ennuyeuse et on va pas aussi se mentir sur le scénario général quand même, et surtout ce qu'on a vu cette saison sur le cyclocross. Franchement, sportivement, si c'était autant médiatisé en France que le cyclisme sur route, on pourrait très clairement lier la domination de Van Der Poel à celle de Pogacar sur route, et tout le monde crierait au scandale. Mais bon, comme c'est du cyclocross, c'est un petit peu voilà, le truc extraordinaire, donc là personne ne dit rien.
Ça, j'adore, il commence fort Arnaud. Jérôme Coppé, il est là, salut Jérôme.
Salut Johan, salut Arnaud.
Pardon,
ouais, il démarre costaud.
Il ouais,
démarre
comme costaud. Ça, Arnaud, j'aime bien. Pardon, désolé, je me suis laissé emporter. C'est mon petit édito. Mais t'as raison, Arnaud. T'as raison, il était intouchable, Mathieu Van Der Poel. Il met 45 secondes sur Wout Van Aert, plus d'une minute sur Thibonès. Il y avait vraiment rien à faire face au Néerlandais. Arnaud, justement, raconte-nous un petit peu cette course. En fait, ça s'est décanté en quoi? En deux minutes?
Ah, mais en fait, la course, de toute manière, elle était réglée à partir du moment où Mathieu Van Der Poel, dès le premier virage, il prend les devants. Dès la première ligne droite, de toute manière, il a déjà commencé à lâcher 90% de ses concurrents. Et le gros problème, en fait, c'est que je pense qu'hier, il y a un garçon qui a fait jeu égal avec lui, mais qui a fait jeu égal en partant avec ce handicap de ne pas avoir participé aux Coupes du Monde depuis le début de l'hiver. Et c'était un choix qu'il avait fait sciemment, d'ailleurs, Wout Van Aert, de ne pas participer aux Coupes du Monde parce qu'il voulait se préparer pour d'autres objectifs sur la route. Donc Wout Van Aert est parti en fait en quatrième ligne. Il est parti en plus de 20e position derrière Mathieu Van Der Poel. Bah, il a jamais réussi à... En fait, il a pris un éclat de 45 secondes, une minute dès le départ. Il n'a jamais réussi à combler le trou. Mais lui, il fait une remontée extraordinaire parce qu'il remonte à la deuxième place finalement, Wout Van Aert.
Non, et en plus, il chute dès la...
Il chute pas. Alors, ouais, tu veux dire par rapport à son histoire de cuissard là, ouais. Et lui-même était incapable d'expliquer, il s'en est même pas rendu compte. On l'a vu en fin de course, on a dit, mais c'était quoi ton cuissard? Il dit, je sais pas, en fait, on m'a dit que j'avais le cuissard déchiré. Mais c'est vrai qu'il avait le cuissard déchiré, mais il avait aucune trace de boue, de quoi que ce soit, de plaie.
Ouais, en tout cas, ouais, début de course compliqué pour Wout Van Aert. Jérôme, t'es d'accord avec Arnaud? C'est particulier parce que Arnaud le disait, c'est en fonction de ton classement dans la Coupe du Monde où tu pars, et forcément lui il est dans le trafic, Wout Van Aert, donc c'est très compliqué d'aller rejoindre Van Der Poel dès le début de course.
Oui, et surtout, c'est Van Der Poel en fait. Et Van Der Poel, bien sûr, il est au courant que Wout Van Aert part quatrième ligne. Donc lui, sa tactique, c'est de partir à fond pour ne pas laisser l'opportunité à Van Aert de se replacer très vite. Alors effectivement, il n'a pas chuté, mais j'ai vu une vidéo où c'est des coureurs qui ont failli chuter. Et lui, il a quand même dû mettre pied à terre contre une barrière. Donc en plus de ça, il perd encore du temps. Donc au bout de 4-5 minutes de course, il est plus loin que sa place de départ. Donc déjà, il est parti loin. En plus, le début de course n'était pas idéal. Mais après, là où je rejoins Arnaud, c'est que par contre, il fait une course incroyable. Alors tactiquement, on va en discuter après, enfin techniquement plutôt, mais après physiquement on sent qu'il était là. Mais on a vite compris, même avant déjà ce championnat du monde, que c'était pas il n'arrivait pas battu Wout Van Aert, mais il savait qu'il n'avait pas le niveau de Mathieu Van Der Poel, qu'en plus il partait quatrième ligne. Donc en fait, tu sens que c'était presque entre guillemets une course de préparation pour les classiques, et il veut absolument gagner à Monument. Donc tu sens qu'il n'est pas arrivé dans le même état d'esprit que Mathieu Van Der Poel. Après, à mon avis, s'il partait côte à côte avec Mathieu, il l'aurait tenu un peu plus, mais à mon avis, le résultat aurait été le même. Je pense que quand même Van Der Poel avait une jambe au-dessus de Van Aert, parce que ok, il y a les 45 secondes à la fin, c'est déjà énorme, mais c'est à relativiser, parce que Mathieu Van Der Poel, dans les derniers tours, il va gérer un petit peu plus. En plus, il a eu une crevaison. Donc voilà, tout ça, c'est à relativiser. Je pense quand même qu'il aurait été battu, mais chapeau à lui, d'une, pour la course qu'il fait. Il lâche quand même jamais, il a souvent des pépins, il lâche pas l'affaire, et il vient sur une course où il sait qu'il va certainement se faire battre, mais son objectif est un peu plus lointain, et surtout, il est sur la route.
Moi, alors peut-être qu'on va l'écouter dans quelques instants, Wout Van Aert. Je voulais juste voilà, te faire part quand même d'une de mes réflexions. Je l'ai trouvé quand même particulièrement affûté, Wout Van Aert, physiquement. Voilà, je crois qu'il a vraiment mis l'accent cette saison pour justement arriver à gagner ce deuxième monument, parce que le dernier, ça date de Milan-San Remo 2019, si je ne dis pas de bêtises.
Crois, oui.
Enfin, le dernier, le seul, en réalité, c'est le seul monument qu'il a gagné dans sa carrière. Je pense que là, vraiment, il mise très très lourd. Alors, comme il l'avait fait sur le printemps dernier, mais je ne sais pas ce que tu en as. Moi, je trouve que vraiment, il m'a paru affûté, le visage hyper fin. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jérôme.
Oui, moi, je me suis dit la même chose. Et surtout, l'année dernière, il avait vraiment misé sur les classiques aussi, mais il était passé un petit peu moins par le cyclocross, même s'il n'en avait pas fait beaucoup non plus. Quand même, je pense que passer par le cross, quand tu es un spécialiste comme lui, je pense que c'est quand même un sacré atout pour préparer ta saison sur route. Plus tous les pépins qu'il a eu l'année dernière, bien sûr qu'il s'est préparé comme un fou. Il y a toujours cette rivalité avec Mathieu Van Der Poel, même si dans les déclarations de Van Aert, on entendra peut-être après, il est presque résigné face à Mathieu Van Der Poel, mais il y a cette rivalité, on les compare toujours, et Van Der Poel, il enchaîne saison après saison les monuments, et Wout Van Aert, il n'y arrive pas, c'est un super coureur, il n'en a qu'un. Pour le niveau qu'il a, alors c'est déjà incroyable d'avoir un monument, mais pour le niveau qu'il a, il pourrait en avoir 5-6, ça serait pareil, mais en fait, il tourne autour, et toujours on dit, ouais, ben là, Mathieu Van Der Poel, il gagne les monuments, Wout Van Aert, il n'en gagne pas, Van Der Poel, il est 7 fois champion du monde de cross, et pas Wout Van Aert, etc. Donc ça doit lui mettre la pression. Et les classiques du début de saison, elles se gagnent l'hiver, pas forcément passant par le cross, mais en arrivant en début de saison affûté, en ayant pu accumuler des kilomètres en stage, en ayant pu faire de l'altitude. Donc les coureurs comme ça, ils sont obligés, là on est au mois de février, d'être déjà quasiment à leur poids de forme, surtout les coureurs de classique.
Et justement, on va écouter Wout Van Aert, c'était à ton micro Arnaud, qui s'exprime sur Mathieu Van Der Poel.
Je ne veux pas dire quelque chose comme ça. Il a gagné tous les crosses qu'il a fait. Tout le monde a vu que c'était peut-être une autre course quand j'étais avec lui le premier tour. Mais c'est aussi sûr qu'il est plus fort que les autres. C'est par accident qu'il a gagné ce titre champion du monde.
Ouais, c'est ça, tu le disais, résignation. Finalement, il s'en contente assez largement.
Franchement, je l'ai rarement vu avec autant de sourire. Et ouais. Il a passé. Alors, il fait toujours le job, Wout Van Aert, avec les journalistes en zone mixte. Mais là, vraiment, il a passé, j'ai l'impression, même pris beaucoup de plaisir à répondre quasi individuellement à tous les journalistes. Il a vraiment passé de très, très, très nombreuses minutes, à l'inverse de Mathieu Van Der Poel, qui on n'en veut pas du tout. Hein. Non, mais Mathieu Van Der Poel aussi, bon, lui aussi, hein, il a quand même beaucoup de questions beaucoup de journalistes qui lui posent des questions. Et bon, forcément, il est obligé un petit peu de timer. Mais moi, j'ai senti un Wout Van Aert vraiment serein, en paix avec lui-même, quelque part. Après une saison 2024, répétons-le, qui a quand même été en dessous de ses espérances pour tout un tas de raisons, et notamment parce qu'il avait subi cette très vilaine chute au début de la saison des classiques l'an passé, qui avait compromis complètement ses rêves d'accrocher le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Donc voilà, je pense que c'est fort quand même d'arriver à revenir comme ça, je trouve, moi, et de j'attends de voir vraiment. Enfin, j'espère, alors bon, je dis ça tous les ans à la même période, mais j'espère vraiment qu'Wout Van Aert cette année va arriver.
On espère tous.
Il mérite tellement, je trouve qu'il est tellement méritant, ce coureur.
Jérôme, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, mais je trouve que dans ces déclarations, surtout là, après ce championnat du monde, c'est avant, j'avais l'impression que, alors nous, on alimente un peu cette rivalité avec Van Der Poel, j'ai l'impression que lui, il était encore vraiment dans cette rivalité à Van Der Poel, moi, et là, dans ces déclarations, c'est comme si, Arnaud t'a dit, un peu en paix avec lui-même, et moi, je dirais même en paix avec cette rivalité, justement, il a un peu lâché l'affaire de se dire, ouais, je vais toujours me comparer à Van Der Poel, etc., etc. Là, il a dit, j'étais très content d'être là pour le septième titre de champion du monde de Mathieu Van Der Poel. Der Poel qui marque l'histoire, etc. Tu sens que c'est presque un, j'allais dire entre guillemets, un aveu de faiblesse, en tout cas sur le cyclocross de Van Aert vis-à-vis de Van Der Poel, mais je le trouve, comme disait Arnaud, vraiment apaisé. Parce qu'il en a eu des pépins. Il faut revenir. Hein, il est tombé en début de saison. Il est tombé sur la Vuelta. On voit encore l'état de son genou. C'est quand même pas très joli. Une année, c'était au chrono du Tour. Chaque fois, quand vous êtes à ce niveau-là, vous tombez tout le temps. Et toute l'énergie surtout que vous mettez à retrouver votre niveau, c'est toute l'énergie que vous ne pouvez pas mettre ailleurs, à bien vous entraîner, à bien dormir, à être serein, etc. Et j'ai vraiment l'impression qu'il est... déjà l'année dernière, j'avais eu ce sentiment-là, mais ça ne s'était pas vraiment traduit en résultat, on va dire, même s'il fait une belle saison. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il est serein, il est beaucoup plus souriant dans ses interviews d'après-course. Quand ça ne marche pas, bah voilà, c'est pas grave, j'y retourne, etc. Alors que des fois, en tout cas au début de sa carrière sur route, il était assez bougon quand ça marchait pas, il râlait assez vite, il s'énervait assez vite, que maintenant il est vraiment assez serein et je pense qu'on va voir un grand Van Aert, comme le disait Arnaud.
On l'espère en tout cas en avril, en mars et en avril sur les pavés notamment.
Juste un petit mot pour revenir sur Wout Van Aert. Alors je compte pas toutes les places de deux qu'il a pu faire en cyclocross ou qu'il a pu faire dans d'autres disciplines. Rien que sur la route, il en est depuis le début de sa carrière professionnelle à 45 places de deux. Faut juste se rendre compte de ce que ça représente en plus d'un nombre de victoires qui est quand même assez conséquent puisqu'il a 57 victoires en professionnel. C'est quand même monstrueux et ce coureur, quand on dit et qu'on essaye de répéter à longueur d'année, alors tout le monde n'est pas d'accord, c'est peut-être pas un fourri classé comme un Mathieu Van Der Poel, enfin moi je pense que si d'ailleurs, mais 50 places de deux, c'est juste monstrueux en fait. Ouais. Combien de fois il a pas eu le petit coup de chance qu'aurait pu faire que dans ces 50 places de deux, moi j'ai aussi en mémoire celle qu'il a offert, les deux qu'il a offert à Christophe Laporte sur Gent-Wevelgem et sur Paris-Nice il y a deux ans. Bon, en plus c'est un coureur qui vraiment qui a un respect mais infini pour ses coéquipiers. Enfin voilà, moi je suis un fan tout simplement de ce garçon.
Et tout le travail qu'il a pu faire.
Je suis content qu'il ait fait deux hier, vraiment.
Et tout le travail qu'il a pu faire pour ses leaders, notamment Vingegaard sur le Tour de France. Immense coureur, légende, Wout Van Aert. On attend beaucoup de lui en mars à avril. On va revenir quand même sur Van Der Poel. Tu en parlais, tu l'évoquais, Jérôme. La technique, parce que on le sait, dans la puissance, Mathieu Van Der Poel est devant en cyclocross, même sur route presque, mais aussi dans la technique, hein, notamment des vidéos qui tournent, je vous invite à aller les regarder après avoir écouté ce podcast, où on voit, on compare Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert sur les mêmes passages, et on voit toute la différence technique qui est à l'avantage du néerlandais, Jérôme.
Ouais, moi c'est vraiment ça en fait qui m'a sauté aux yeux quand j'ai regardé la course hier, au-delà du niveau physique, parce que je vais le répéter encore une fois, mais comme Wout Van Aert est parti assez loin, c'était difficile de voir qui était vraiment au-dessus du lot. Mais ce qu'on pouvait comparer, une fois que Wout Van Aert s'était un peu déblayé le chemin et qu'il avait doublé les 30 coureurs qui étaient devant lui, où il pouvait prendre les trajectoires qu'il voulait, comme tu as dit, il y a des vidéos qui tournent, on les voit sur les mêmes passages, notamment cette descente un peu en dévers et avec la grosse ornière. Et là, la différence, franchement, à la fin de la descente et des deux virages là, du petit pif-paf, je pense que Mathieu Van Der Poel, il prenait 4-5 secondes à chaque fois sur Wout Van Aert, rien que sur ce passage-là. Donc techniquement, bien sûr, on sait que Mathieu Van Der Poel, il est incroyable techniquement. Van Aert est très bon aussi parce qu'il faut réussir à rouler sur un circuit qui était dans cet état-là. Mais il y a quand même encore un peu une classe d'écart techniquement entre les deux. Alors pareil, ça reste à relativiser parce que Mathieu Van Der Poel, il est devant. Il a fait moins d'efforts que Van Aert pour remonter, pour doubler, pour zigzaguer, etc. Donc quand tu es un peu plus lucide, c'est aussi un petit peu plus facile de prendre les bonnes trajectoires et d'être techniquement très propre. Mais quand même, il est Mathieu Van Der Poel, il n'y a pas plus technique que lui. Et Wout Van Aert qui fait deuxième, on voyait qu'il y avait quand même de l'écart. Alors je vous laisse imaginer avec ceux de derrière, c'était quand même un sacré bourbier hier. Il y avait vraiment des parties où on voyait que c'était encore un peu gelé. Puis après, ça commençait à dégeler un peu. Ça devenait vraiment de la boue. Et d'ailleurs, moi, j'avais un petite infime espoir au départ, c'est que dans la boue quand même, Wout Van Aert, il est très très bon. Dans le sable, Van Der Poel, il est au-dessus. Dans la boue, Wout Van Aert quand même, il match un petit peu avec Van Der Poel. Mais de nouveau, comme il est parti loin, comme il y a eu ce petit, il a dû mettre pied à terre au départ, etc. Bon, la course était finie dès le début. Mais voilà, de toute façon, techniquement, Van Der Poel est quand même au-dessus de Van Aert et de tous les autres.
Là, de toute manière, sur une quinzaine de kilomètres, il y a Wout Van Aert qui est sous la minute. Tous les autres, à partir de là, jusqu'à la sixième place, ils sont entre une et 2 minutes, et au-delà de la sixième place, ils prennent 2 minutes. Vous imaginez sur 15 km ce que ça représente sur 7 tours de circuit. 2 minutes, ça fait 120 secondes, donc ça veut dire que tu perds 20 secondes quasiment par tour.
Mais en fait, ce qui est dur, j'imagine, pour les adversaires, et ce qui est très bien pour Mathieu Van Der Poel, c'est qu'en fait, il les éparpille au bout de 3-4 minutes. Et après, on voit très vite, au bout d'un tour, un tour et demi, bah derrière, ils se regardent déjà et ils jouent déjà à la place de deux. Mmh. Parce qu'il y a quand même un paquet de coureurs qui sont rentrés de l'arrière, qui ont pété après, mais qui sont rentrés de l'arrière sur Thibaut Nice, et ils étaient 2-3 au bout d'un tour et demi derrière. Il y en a qui sont rentrés. En fait, ils sont déjà battus. Ils sont déjà battus. Et Arnaud, tout à l'heure, tu as fait la comparaison avec Pogacar. Mais des fois, quand Pogacar, il attaque à 50 kilos de l'arrivée, bah derrière, ça se regarde aussi et ça pense déjà à la place de deux. Bah là, quand vous avez un coureur qui domine sa discipline comme ça, bah, d'une, physiquement, il est plus fort. En plus, il écœure les autres. Et voilà, dès qu'il va prendre 10-15 secondes, il sait que derrière, dans la tête, ils sont battus. Techniquement, physiquement, en plus, il est plus fort. Voilà, s'il n'a pas un problème mécanique, il ne pouvait rien lui arriver.
7 titres de champion du monde donc pour Mathieu Van Der Poel. Tu le disais, Arnaud, dans ton commentaire, il égale. Donc Eric de Vlaminck, tu lui as posé la question d'ailleurs sur un éventuel 8e maillot arc-en-ciel. On écoute Mathieu Van Der Poel.
Oui, mais ouais, on ne sait jamais si ça va passer. Donc je vais d'abord savourer celui-là et après on va regarder.
Il savoure, Mathieu Van Der Poel, il a le temps, mais on n'imagine pas, c'est un homme qui vit pour les records, Arnaud.
Oui, non, mais ça le fait rêver. De toute manière, il faut aussi remettre dans le contexte de la carrière de Mathieu Van Der Poel, qui est arrivé sur la route de manière relativement pleine il y a 6 ans, en 2019, on va dire, où il a vraiment commencé à se consacrer beaucoup à la route. Mais avant ça, il se consacrait exclusivement au cyclocross, voire un petit peu au VTT. Mais c'est vraiment sa discipline de prédilection, c'est celle qui l'a fait rêver, c'est la seule véritable star en fait de la discipline. Enfin, en tout cas, oui, si, c'est la seule star internationale mondialement connu. Enfin bon, il y a quelques garçons en Belgique et aux Pays-Bas qui en vivent de ce sport-là exclusivement. Lui, il pourrait faire partie, enfin il pourrait ne vivre que du cyclocross. C'est vraiment voilà la discipline qu'il adore tout simplement. Donc ça compte énormément pour lui d'avoir un titre mondial. Et il le disait aussi, ça peut paraître simple. Vous, ça peut vous paraître simple derrière les barrières de me regarder et de me voir gagner avec 45 secondes d'avance sur Wout Van Aert. Mais rien n'est jamais simple et effectivement, il faut quand même le faire. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment la discipline, je pense, qui fait vibrer son cœur. Et il faut se souvenir aussi ce qu'il nous a dit récemment, Mathieu Van Der Poel. Bon, déjà, les courses à étapes, ça le gonfle. Et le Tour de France, ça le gonfle. Donc, ouais. Lui, ce qu'il aime, c'est les courses d'un jour, comme ça, que ça soit sur route ou dans les chemins boueux. Mais voilà.
Ouais, on va le revoir. En plus, il nous a éclairé sur son calendrier.
Alors, il fera une course à étapes pour le coup, en premier, ouais, a priori.
Déjà, mais quand même, on le verra sur Milan-San Remo. Ouais. On le verra sur les classiques en avril. Il faudra voir dans quel état de forme. On se rappelle aussi l'année dernière, ça a été compliqué, notamment sur les dernières courses.
Oui, alors et sur puis... les dernières courses, mais bon, entre-temps, il avait gagné. Je me souviens bien, il avait quand même fait une sacrée début de saison sur route. Je reprends tout simplement mon petit palmarès. Oui, il gagne quand même le 3 au Tour des Flandres, Paris-Roubaix, 3e de Liège-Bastogne-Liège, 10e de Milan-San Remo en ayant fait le taf pour son copain Jasper Philipsen.
Et en revenant sur un certain Tadej Pogacar, quand même.
Pas si mal.
Au sommet du podium, c'est pas si mal.
Je vais préciser quand même qu'il vient d'avoir 30 ans. Donc pour un 8e titre, il a encore du temps. Hein, il a encore du temps. Il serait même en capacité, je pense, d'en prendre 10, hein, peut-être. Parce que là, finalement, il est champion du monde, mais il a fait que 7 crosses avant. Donc il ne fait pas non plus la saison complète. Après, il a déjà laissé sous-entendre qu'une année, il aimerait peut-être bien laisser de côté complètement le cyclocross pour peut-être revenir un petit peu au VTT. Mais en tout cas, pour un 8e titre, c'est certain. Puis il a tellement de marge. Il a tellement de marge que même s'il s'entraîne un petit peu moins spécifiquement pour le cross, il a quand même deux jambes au-dessus des autres.
Parce que si je me trompe pas, le maillot arc-en-ciel en VTT, c'est le seul maillot arc-en-ciel qui lui manque à son palmarès. Si je me trompe pas, je crois qu'il a route.
Oui, à vérifier.
Cyclocross.
Oui, à vérifier. Mais je pense pas non plus effectivement qu'il est.
Donc voilà, il pourrait faire le triplé gagnant. Justement, le cyclocross, discipline à cheval, on l'a pas précisé entre le VTT et le cyclisme sur route, c'est une vraie tradition en Belgique. Ça attire chaque hiver des dizaines de milliers de spectateurs le long des circuits de compétition. Alors c'est moins vrai en France, mais les fans ont répondu présents tout ce week-end, Arnaud, autour du circuit très boueux de Liévin.
Oui, et on écoute l'ambiance. Alors voilà, c'est toujours ambiance très, très flandrienne, justement. Voilà, c'est une kermesse. Ils sont nombreux à s'être rassemblés ce week-end pour ces premiers championnats du monde de cyclocross organisés dans l'Hexagone depuis l'édition de Pontchâteau en 2024. Alexis a fait plus de 1000 km samedi matin depuis Marseille avec ses amis pour assister à l'événement.
On a pris le train ce matin à 6h pour venir voir cet événement. Et voilà, on est amoureux de ce sport et du coup, quand on est amoureux, on fait plein de choses par amour et on peut se déplacer n'importe où, en France, à l'étranger.
Et ce qu'aime particulièrement Alexis dans le cyclocross, il le pratique hein, lui-même en club en Provence, c'est cette proximité du public avec les coureurs qui évoluent sur un circuit fermé long de quelques centaines de mètres, rien à voir bien sûr avec les courses sur route.
Puis on peut voir les athlètes passer plusieurs fois à différents endroits, avec différentes techniques, on va passer à pied, sur le vélo, dans la boue, il y a des passerelles, c'est vraiment très différent et c'est très fun, mais comme vous dites, le public... Écoutez, l'ambiance qui est autour de vous, c'est juste incroyable, quoi.
Et une ambiance notamment portée ce week-end par la légende vivante, on en a parlé, Mathieu Van Der Poel, 7 sacres mondiaux désormais tout en haut du palmarès du cyclocross avec le Belge Eric De Vlaeminck. Pour Alexis, les exploits du Néerlandais sont forcément inspirants.
Chez beaucoup de jeunes, il inspire notamment ce sport. Et je pense grâce à lui, il y a beaucoup de licenciés qui se mettent à ce sport-là. Il fait du spectacle, il fait du show et voilà, il a pas peur et c'est ce qu'on aime.
Et reconnaissons-le, malgré tout, le cyclocross reste une discipline confidentielle en France, là où elle est un incontournable chez nos voisins belges qui vibrent tous les week-ends de l'hiver au rythme des tours de roue dans les chemins boueux, comme en témoigne Patrick, venu de Bruxelles.
Mes parents, ils regardaient la course à la télé, moi je regardais la course à la télé, je faisais de la course aussi moi-même. On est né avec un vélo entre les jambes.
Et pour l'ancienne championne de cyclocross, Laurence Leboucher, le cross n'aura jamais la même aura chez nous qu'en Belgique.
Le cyclocross en Belgique est plus développé parce qu'ils ont l'avantage d'être un petit pays. Pour les athlètes, c'est beaucoup plus facile de se déplacer et de courir régulièrement tous les dimanches sans traverser un pays immense. Et historiquement, la Belgique et le cyclocross, c'est quand même le sport national.
Et malgré la ferveur hier, les Français n'ont pas été en grande réussite. Le premier d'entre eux, Fabien Doubet, a terminé à la 15e place de la course.
Ouais, compliqué pour les Français, mais le plus important, Jérôme, c'était vraiment cette ferveur-là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des championnats du monde en France, 21 ans qu'on attendait ça. Quand même, ça montre aussi que le cyclocross est en train de se développer un petit peu dans l'Hexagone, un petit peu plus qu'avant. Jérôme.
Ouais, un petit peu plus qu'avant, mais pas assez,
ouais, pas assez, assez
à
oui.
Mon goût. Comme l'a dit Arnaud, on est très loin, bien sûr, de la Belgique où il y a des équipes pro de cyclocross où des coureurs font exclusivement la saison de cyclocross, etc. On se rappelle que Steve Chenel, ce autre spécialiste du cyclocross, avait essayé de monter une équipe, enfin, avait créé une équipe, mais ça n'avait pas vraiment marché finalement. Donc nous, notre culture cycliste en France, elle est vraiment sur la route avec le Tour de France notamment. Alors qu'en Belgique, c'est vraiment le cyclocross. Et on voit, alors là, il y avait énormément de monde, moi j'ai trouvé sur ces championnats du monde en France, et c'est génial. Je trouve que la discipline est super télégénique. L'auditeur l'a dit, il voit y passer les coureurs plusieurs fois, voilà, sur les 7-8 tours. C'est quand même hyper cool à regarder. Techniquement, on voit très bien que c'est des monstres. Mais en France, on a beaucoup de très bons coureurs. On en a eu des champions du monde junior, Venturini, Bisio, etc. Mais après, nous, nos coureurs, les spécialistes de cyclocross, au bout d'un moment, ils veulent quand même toujours basculer sur la route et mettre la priorité à la route. Alors, est-ce que ça vient des équipes? Est-ce que c'est des ordres de leur manager, etc.? Ou est-ce qu'ils ne veulent pas vraiment se lancer à 100% dans le cyclocross aussi parce que c'est moins reconnu que participer au Tour de France? C'est-à-dire, si vous êtes top 5 mondial en cyclocross, vous êtes français, vous êtes top 5 mondial, vous allez avoir moins de reconnaissance, moins de retombées que si vous faites, je ne sais pas, top 15 du Tour de France, par exemple. C'est à ce niveau-là, alors que c'est, à mon avis, plus dur d'être top 5 mondial en cyclocross avec le niveau qu'il y a que de faire top 15 d'un Tour de France. Il y a Arnaud Jouffroy qui avait tenté sa chance en Belgique, qui était parti s'installer en Belgique, qui avait vraiment dédié sa carrière au cyclocross. Ça n'avait pas fonctionné pour lui. Voilà, nous, on n'a pas la même mentalité en France. On veut absolument après passer sur la route et participer au Tour de France notamment. C'est plus culturel, je pense, alors qu'on a des talents qui seraient capables peut-être à terme d'être champion du monde chez les élites.
Ouais, tu confirmais, Arnaud.
Non, mais parce qu'en fait, ne serait-ce qu'en discutant avec Clément Venturini, par exemple, qui est multiple champion de France et qui, on va dire, il est le cyclocrossman de la génération actuelle du côté des tricolores. Lui, il remercie grandement son équipe, parce que lui, c'est un cycliste sur route, surtout. Il remercie grandement son équipe actuelle Arkea pour de le laisser, en fait, comme l'a d'ailleurs fait à l'époque à G2R, de le laisser partir l'hiver, comme ça, disputer des cyclocross. Mais forcément, c'est l'équipe quand même qui finance ça. Pendant ce temps-là, il n'est pas en stage avec le reste de l'équipe. Il y a quand même pas mal de déplacements juste pour lui qui sont aussi à financer. Donc c'est un investissement que certaines équipes, et en particulier quand même des équipes françaises, ne veulent pas faire. Bon, après, c'est pas juste une histoire d'équipe française non plus, parce que effectivement, à part Mathieu Van Der Poel ou Wout Van Aert, on avait vu Thomas Pidcock également faire quelques cyclocross et quelques, voilà, il y a Joris Nevenuys aussi qui faisait le cyclocross hier et qui est en routier.
Il y a Thibonès, du coup, qui
fait 3e. Bon, voilà, il y en a quelques-uns. Après, c'est pas non plus une majorité, mais c'est vrai qu'en France, quand même, on... Je trouve que c'est un petit peu dommage voilà, qu'on ne laisse pas des garçons. Parce qu'on a quand même un truc très particulier en France, et Jérôme, ça tu l'as constaté comme moi, on a chez les jeunes des immenses talents qui régulièrement obtiennent des médailles au niveau mondial. Et par contre, ça ne confirme jamais chez les grands. Alors bon,
ça vaut pour la route aussi, hein, malheureusement.
Ouais, mais alors attends, pour la route, Jérôme, je suis moyennement d'accord avec toi quand même. Enfin, on a quand même un nombre de médailles ces dernières années en route qui est juste.
Oui, mais je veux dire, on a eu beaucoup de juniors, par exemple, qui ont été champions du monde sur route, qui n'ont pas forcément confirmé chez les pros. Voilà, dans ce sens-là, je veux dire, mais là où je te rejoins, c'est qu'on a des jeunes, et là on parle du cyclocross, donc on va vraiment parler du cyclocross, qui sont extrêmement bons chez les jeunes et après qui ont du mal à confirmer, mais parce qu'ils ne se dédient pas à 100% à la discipline. Si vous appelez Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert, ok, vous êtes des machines de guerre, vous êtes au-dessus du lot, vous pouvez diviser votre saison en deux, une partie avec le cross, une partie avec la route, mais si on est un petit peu en dessous, ben, on est obligé de se dédier à 100% à cette discipline qui demande un énorme travail technique. Il faut rappeler qu'il faut aller courir, ils font beaucoup de footing, ce qui n'est pas forcément ultra compatible avec la route. On sait que les cyclistes sur route n'aiment pas trop courir, des gens ne savent pas courir, on a des courbatures, on se blesse, etc. Alors que les mecs en cyclocross vont courir, c'est pour ça que d'ailleurs, là on va souligner un petit point un peu plus technique, mais si vous regardez un coup de pédale de Wout Van Aert ou de Mathieu Van Der Poel sur le déroulé de la cheville, c'est les plus beaux coups de pédale qu'on a dans le peloton, parce que avec la course à pied leur permet de vraiment pousser, tirer, d'avoir cette fluidité dans la cheville que des purs routiers n'ont pas. Mais ça vient aussi, Arnaud l'a souligné, vous êtes manager d'équipe, vous payez vos coureurs pour performer sur la route. Alors vous voulez bien leur laisser de temps en temps aller faire du cross, mais vous leur rappelez toujours qu'ils sont payés pour faire de la route. Et que en fin d'année, quand vous allez parler de prolongation de contrat, ils ne vont pas forcément regarder si vous avez été malheureusement, je repense à Clément Venturini, mais champion de France de cyclocross, ça ne va pas peser dans la balance quand il va vouloir re-signer son contrat, prolonger ou changer d'équipe. En France, ça, entre guillemets, ça ne vaut pas grand-chose pour un manager d'équipe. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment que ça marche sur la route. Marc Madiot le faisait, hein, il y a des années. Moi, quand je suis passé pro en 2008, on était obligé d'aller faire un stage de cyclocross à Rénazé, tous les coureurs, hein, même les routiers. Et c'est peut-être un des premiers marques en France. Il y avait Francis Mouret à l'époque, où il laissait vraiment Francis faire toute l'année de cyclocross, vraiment toutes les courses. Et comme disait Arnaud, il finançait, d'ailleurs il avait fait des médailles au championnat du monde, Francis Mouret. Mais au bout d'un moment, naturellement, ils finissent tous quand même, nos coureurs français, par mettre un peu plus le focus sur la route, parce qu'ils veulent performer sur les courses et notamment sur le Tour de France, quoi.
Ouais. Et Clément Venturini, tu en parlais, tu le connais en plus, Clément Venturini qui a commencé chez la Cofidis. Là pour le coup, toi, quand tu étais coureur, quand tu as vu ce petit jeune arrivé qui venait d'être champion du monde en junior, quel regard t'avais en tant qu'ancien coureur? T'avais 27 ans, toi, à l'époque. Il en avait 19, hein, Clément Venturini.
Ouais, on est toujours, bien sûr. Alors, ça m'intriguait. Alors, on suit toujours les résultats des jeunes. On essaye de regarder qui va finir par nous mettre à la porte. Donc, on essaye de regarder les résultats des jeunes. Non, mais même quand vous êtes professionnel, vous allez regarder les résultats des amateurs, etc. Et Clément Venturini, il était au club amateur de Lyon-Vaux-en-Velin, où je suis passé aussi. Donc, bien sûr qu'on suivait un peu ses résultats. Et puis, champion du monde junior de cyclocross, c'est quand même pas rien. Donc, voilà, c'était un peu une petite curiosité quand on l'a vu arriver. Alors on sait que quand on est un coureur champion du monde de cyclocross, on connaît un peu ses qualités, certainement bien puncher, on le voit, Van Der Poel, Van Aert, il va certainement vite au sprint, etc. Moi, ce qui m'avait marqué avec Clément quand il est arrivé, c'est qu'il avait tout de suite une grosse confiance en lui. Pas de l'arrogance, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé en disant « je vais vous apprendre le vélo et je vais vous montrer comment on gagne des courses ». Non, il était sûr de ses forces. Et malheureusement, pour lui, son profil, il est un peu hybride. Il est bon un peu partout, mais il est excellent nulle part. Il va vite, mais il va toujours tomber sur un sprinter qui va aller un peu plus vite. Donc lui aussi, un peu à la Wout Van Aert, il a énormément de deuxième place. Il est toujours placé. Donc pour une équipe, c'est bien parce qu'on parle de nous. Là, il y a les points UCI, etc. Donc il ramène des points. Mais par rapport à son moteur et à ce que ses résultats en amateur et en cyclocross laissaient présager, il a entre guillemets que 4 victoires pro. Avec ce qu'il a dans le moteur, il pourrait en avoir plus, mais comme je dis, il tombe toujours sur un gars qui va un peu plus vite, qui grimpe un peu plus, qui punch un peu plus, etc. Donc c'est pas facile avec son profil de gagner beaucoup de courses. Mais nous, c'était clairement quand on a quelqu'un qui arrive comme ça, qui est champion du monde junior, tu sais qu'il a le moteur et tu sais qu'il va pas mettre longtemps à passer le cap chez les pros.
Justement, on va l'écouter, Clément Venturini, qui termine 17e, hein, seulement des championnats du monde, forcément déçu à l'arrivée.
S'il y en a un qui vous dit qu'il est satisfait du 16e place, je pense qu'il n'a pas trop sa place sur une course. Donc le mot n'est pas trop adéquat. Voilà, ça a été compliqué dès le départ. Après, ça dure 60 minutes, j'ai essayé de faire au mieux. Mais voilà, j'ai jamais su trouver vraiment le beau feeling sur circuit. Il y avait des passages qui étaient bons, d'autres moins bons. Et sur un circuit comme ça, les sans faute n'existe pas, mais il faut être le plus régulier possible, ce que j'ai pas trouvé à faire. Certes, je suis champion de France, ce qui était un gros objectif collectif et personnel. Mais il y en avait un deuxième, c'était briller sur le plan international. Voilà, j'ai pas réussi à faire cette année. J'ai pas eu vraiment le circuit avec le top feeling cette année. Bon, voilà, c'est un peu cette déception là, pour avoir brillé. Au niveau international, 50% du contrat est rempli, il y a un maillot bleu blanc rouge sur le dos.
Voilà, 7e maillot bleu blanc rouge donc pour Clément Venturini qui est allé chercher le 12 janvier hein, ce titre de champion de France, plus compliqué pour lui sur la scène internationale. Vous l'avez entendu, en tout cas lui il va allier la route. Mais d'ailleurs c'est vraiment le point commun entre les trois du podium hein, Thibaut Ness, Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel, c'est qu'ils allient le cyclocross et la route. Quand même, on attend Clément Venturini, notamment sur la Drôme et l'Ardèche classique. Mais voilà, quelle qualité ça t'apporte, tiens, Jérôme, pour conclure sur le cyclocross, quelle qualité ça t'apporte de commencer par le cyclocross, de te former comme ça, et sur la route, ça t'apporte quoi concrètement?
Alors, ça t'en apporte plein des qualités, mais la première, c'est l'agilité. Ouais. De prendre tous les cyclocrossman, ils sont tous ultra habiles avec leur vélo. Van Der Poel, alors bien sûr, ils chutent. Van Aert, c'est pas parce que tu as fait du cyclocross que tu vas jamais aller goûter au goudron, malheureusement. Mais ils sont tous, ils savent très bien frotter. Ils savent, voilà, s'il y a un îlot au milieu de la route, ils vont le sauter, il n'y a pas de problème. Nous, on va freiner, se mettre en dérapage, essayer de le contourner. Eux, ils ne se posent pas de questions. Boum, c'est comme si c'était une planche, ils sautent par-dessus et ciao, ils n'en parlent plus. Donc techniquement, ce qu'ils sont capables de faire dans les chemins, bien sûr qu'ils sont ultra habiles sur la route après. Et ça, c'est une grosse plus-value. Et moi, par exemple, ça a été complètement l'opposé parce que j'ai commencé le vélo très tard, à 17 ans. Et alors, j'étais habile, mais de loin, pas comme eux. Et Primoz Roglic, par exemple, si on prend un coureur actuel, bah, lui, par contre, tu vois très bien qu'il a commencé le vélo tard et qu'il n'est pas très habile. Mmh. Si on prend un Peter Sagan, par exemple, qui avait fait beaucoup de VTT, aussi un peu de cyclocross, voilà, c'est tous des mecs qui sont ultra habiles. Ça, c'est la première grosse qualité. Et après, c'est tout le travail lactique, là, des efforts de 30 secondes, d'une minute, quand ils doivent monter des petits coups de cul en injection. Ils sont tous ultra punchy en général. Et d'ailleurs, ouais, si ça. On prend le podium, Van Aert, Van Der Poel, Thibaut Nice, eux, si tu les mets un mur de 8, c'est pour certains c'est peut-être un peu long, mais des petits, les monts des Flandres, etc., bah, là-dessus, ils excellent parce que c'est des efforts en 30 secondes et une minute 30. Ça, ils en ont tous les tours, tous les week-ends, tout l'hiver. Donc, bien sûr, ils sont quasiment imbattables là-dessus.
Et forcément, on les reverra. De toute façon, les trois qu'on a cités, donc Thibaut Ness, Van Aert et Van Der Poel, en mars, avril, sur les classiques d'un jour. Tiens, pour être complet sur les résultats, on ne va pas parler que des hommes et que de la catégorie élite. Chez les espoirs, c'est un autre Néerlandais qui s'est imposé. Tibor Del Grosso, le coureur d'Alpecin de Koenig, qui conserve son titre quand même. Et pour rester sur les Néerlandais, chez les femmes, cette fois, quadruplé quand même des Néerlandaises avec Femme Van Empel qui s'est imposée. Mais Cocorico, on a eu deux belles médailles, trois même belles médailles. Médaille d'argent chez les juniors, chez les hommes, pour Soren Bruyère-Joumar. Et médaille d'or pour une Française chez les juniors, c'est Lise Revol qui est allée s'imposer. Et on a eu une médaille de bronze quand même en relais mixte. C'est plutôt pas mal finalement le week-end.
Oui, oui, non, mais c'est excellent et c'est la preuve de ce que je te disais tout à l'heure, c'est que dans les catégories jeunes, oui, voilà, ça continue, enfin ça marche toujours très très fort. Voilà, maintenant il reste à savoir, mais je crois que c'est quand même une volonté hein, quelque part de la Fédération française de cyclisme d'essayer de faire en sorte que ça se transforme en... parce que la Fédération française de cyclisme, si le cyclocross n'est pas une discipline forcément très populaire en France, elle prend les choses évidemment très très à cœur et elle veut avoir un maximum de médailles partout. Ça sera possible aussi parce qu'on ne sait jamais, si jamais le cyclocross devenait discipline additionnelle des JO d'hiver en 2030, ça serait quand même pas inintéressant de pouvoir y briller.
Bien sûr, mais pour ça, tant qu'on n'aura pas d'équipe pro cyclocross dédié à ça, je pense qu'on, ou des coureurs qui sont capables de sacrifier leurs ambitions, hommes ou femmes hein, d'ailleurs, de sacrifier leurs ambitions sur la route pour aller faire que du cyclocross, ce qui veut dire s'installer en Belgique, etc., etc., pour pouvoir courir tous les week-ends, ça va être compliqué d'avoir les résultats qu'on a chez les juniors, d'avoir les mêmes chez les élites. Et bien sûr, comme ça peut devenir potentiellement une discipline olympique, bien sûr que la Fédé est intéressée pour que les jeunes continuent dans cette voie-là quand ils montent en catégorie. Mais pour ça, il faut avoir les moyens de le faire. Il faut que nos coureurs, nos jeunes qui veulent se consacrer à 100% au cyclocross, il faut qu'ils puissent être payés pour faire que du cyclocross.
Exactement. Et heureusement qu'il y a des porte-étendards aussi, comme Mathieu Van Der Poel. On l'a entendu dans ton reportage, Arnaud, avec Alexis, le supporter qui suit Mathieu Van Der Poel et qui donne envie aussi aux jeunes de commencer cette discipline. On est complet sur ce week-end de fête donc à Liévin. Merci Arnaud.
Merci les amis.
Jérôme. On se retrouve très vite dans Grand Plateau. Abonnez-vous, mettez une bonne note. Et à bientôt les amis. Ciao, ciao.
RMC, Grand Plateau.